cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
Alors pour l'écoute du troisième mouvement, nous avons choisi d'éliminer certaines versions qui ne peuvent pas prétendre à gagner cette écoute comparée de la symphonie numéro 104. On a donc éliminé la version numéro 2, nous avons trouvé un peu caricaturale dans le genre baroquisant. La version numéro 8, à l'inverse, dans le genre néo-brucknerien. Et la version numéro 9, qu'on trouvait un petit peu banale. Et donc nous gardons les 7 autres versions, à commencer par la première. C'était donc la première version du menuet de la symphonie numéro 104 de Haydn. Eric, ouais. Taver, vous avez l'air
trouvé ça enchanté.
Oui, voilà.
Voilà, c'est très bien. C'est vraiment allegro. C'est pas
on
du
a
tout
l'élan.
Voilà, on peut toujours craindre les menus un peu lourdeaux qu'on nous a assénés pendant quelques années. Et là, ça fonctionne très bien. Le trio est tout à fait merveilleux aussi. Hein, allégé,
belle couleur
d'orchestre. Très beau. On a les surprises, sans que ce soit forcé. C'est vraiment extrêmement plaisant. Et ça rythme bien, je trouve, après le mouvement lent. Ça rythme bien la progression de la symphonie qui était très statique, hein, vous vous souvenez.
Voilà. Oui, d'ailleurs, ça nous amène peut-être à reconsidérer le deuxième mouvement de cette version. Fait exprès. Enfin, moi, j'y croyais pas trop, mais en fait, il semblerait que si, à l'écoute de la suite. Hein.
Ouais.
Non, vous n'êtes pas d'accord, Stéphane ?
Oui, moi, je trouve que c'est, bon, c'est pétulant, pétillant. Il y a quelque chose un petit peu entre une ouverture de Mozart et du Rossini dans ce que fait cet interprète. Le problème, c'est que ça va tellement vite, il y a une telle nervosité, une telle...
Ah, moi, je sens pas de nervosité.
Une telle
c'est
rapidité.
C'est pas la nervosité.
Ah, si, à un moment, sur des traits, sur les cordes, ça tire tellement.
On pourrait être plus appuyé, plus...
Là aussi, parce que c'est une version apparemment baroque, on a envie de lui dire, attends, ralentis, respire un peu. Parce que c'est...
Moi, j'ai pas
ce mouvement.
Ça.
Alors, évidemment, c'est un mouvement. Alors, c'est jamais qu'une danse paysanne française qui a été inventée au XVIe siècle et qui a été récupérée après par les cours successifs d'Europe. Mais enfin, bon, on pourrait faire quelque chose peut-être d'un peu plus...
Raffiné, c'est
un
ça
un peu plus... Peut-être pas raffiné, non, parce que là, c'est extrêmement précis, extrêmement délicat. Non, mais on
prend
un peu plus son temps, parce que là, c'est carrément indansable. Ça,
mais c'est pas fait.
Mais c'est pas dansable, le classicisme, c'est...
C'est un entracte, c'est un intermédiaire
entre bien sûr.
Le mouvement lent que lui, en plus, prenait de façon extrêmement stable.
C'est une danse figurée, attention.
Et puis le très long
final. Non, mais c'est évident que c'est une danse figurée.
C'est un scherzo, c'est tout.
Simplement, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de respiration et que, bon... Voilà.
Moi, j'ai trouvé ça divertissant.
Ah, c'est un divertissement, oui, c'est un divertissement.
Version numéro 3.
Thank you.
1883, toujours beaucoup de charme, moi, je trouve.
Ah, beaucoup plus encore, peut-être même. Pour moi, c'est infiniment plus subtil que ce qu'on a entendu avant. Il y a des repères de différentes époques. Il y a un côté Handel, lorsqu'il y a les timbales derrière qui arrivent dans le fond, comme ça. Il y a un côté théâtral, il y a un côté plus approfondi en même temps. Et puis, dans le trio, on arrive dans un principe un peu de sérénade mozartienne. C'est tout à fait charmant, c'est très bien monté, très bien fait. C'est sans grande prétention, mais je trouve que c'est vraiment, ça correspond bien à l'esprit.
C'est pas un mouvement prétentieux, c'est sûr. Moi, j'ai été un petit peu gêné par la rigueur rythmique un peu implacable, un petit peu trop. J'ai trouvé que la première version avait finalement plus de fantaisie.
Elle a plus de caractère, surtout. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de caractère, ce mouvement-là. C'est un peu décoratif, un peu joli. Et puis, effectivement, on passe au trio sans crier gare, moi, je trouve.
Oui, je suis d'accord.
Voilà, une espèce de continuité.
C'est fait avec
plaisante.
Un peu trop de sérieux, finalement, moi, je trouve.
Peut-être, oui.
Oui. Moi, je trouve.
C'est ce qui vous a plu,
même,
Stéphane,
c'est un, oui, c'est un. Oui, non, moi, je trouve.
Moi, je préfère largement le menuet de la
en
version
fait,
1.
Peut-être que l'orchestre de la version numéro 3 est un petit peu meilleur intrinsèquement que le premier aussi, c'est peut-être ça qui vous séduit.
Ce qui me gênait vraiment dans la première version, c'est le côté, l'absence de respiration et un modèle absolument uniforme, monobloc, quoi, avec une virtuosité complètement débridée, à la limite de l'étouffement. Et là, j'ai autre chose. J'ai à la fois le côté baroque et en même temps le côté classique.
Pour savoir vraiment ce qu'il en est, hein. Parce que là-dessus, on n'est pas.
Mais c'est un mouvement extrêmement délicat et puis de toute façon, ça pose toujours des problèmes. L'écoute des menuets est toujours très, très, très problématique.
Allez, version numéro 4. Qui avait peur de vous endormir avec le menuet, là, pour le coup, on est servi.
Oui, alors là, on est dans un tempo plutôt presto qu'allegro. Mais alors, contrairement à la première version, là, je trouve au contraire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est complètement différent. Il y a un sens des ruptures. C'est furieusement théâtral, avec des arrêts, etc. Et en même temps, il y a un aspect très divertissant, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'entendre déjà du Lanner, des musiques Biedermeier, un côté Wildo. Qui est assez amusant. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'investissement de la part des musiciens, une folie un peu débridée. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très séduisant.
Eric ?
Oui, moi aussi. Moi, j'aime bien le fait qu'on ralentisse le trio après le tempo du trio.
Tout à fait.
Après
c'est
le
très
menuet,
bien fait.
Ça tombe très bien, c'est bien fait, c'est agréable. Ça finit par être un peu brouillon quand même. Enfin, le menuet proprement dit.
C'est un peu limité. C'est un peu
limité. Comme ça va tellement vite.
Il y a un côté coup de fouet.
En plus, il y a une réverbération un peu autour des instruments qui fait que on s'y perd un peu. Ça les pupilles se mélangent à l'audition.
On écoute évidemment de manière fractionnée, mais on écoute continu, on n'aurait peut-être pas exactement le même effet.
Peut-être.
Version numéro 5.
Ah.
j'ai un peu l'impression qu'on est dans l'antithèse totale de la version précédente, hein, tout simplement. Beaucoup de douceur, ce côté stylisé mozartien qu'on avait déjà décrit dans le premier mouvement. Stéphane ?
Oui, alors il y a quelque chose d'extrêmement délicat, de très précieux dans les timbales, d'une discrétion, mais vraiment à la limite du blanc. Il y a une très bonne maîtrise du tempo, beaucoup de charme, beaucoup de clarté. Et on se dit, le trio, donc, il va en profiter pour typer un peu plus, davantage un peu sa direction. Et puis finalement, non, on s'aperçoit que le trio est beaucoup plus banal que ce qu'on a entendu. Et on est un peu dans l'expectative. On se dit, mais alors, où va ce fameux menuet ?
Oui, c'est un peu rigide globalement quand même tout ça. Hein. Ça manque un peu de plaisanterie, ça manque un peu d'humanité, d'humour.
Il y a surtout de la douceur, mais c'est peut-être par contraste aussi avec ce qu'on a écouté précédemment. Hein.
Mais c'est très bien fait, c'est très beau la réalisation.
Bah, l'orchestre est magnifique.
C'est délicat, voilà.
Version 6. Toujours la beauté de cette version numéro 6, qui est vraiment le meilleur compromis, hein. Encore une fois.
Bah, je ne sais même pas si c'est un compromis.
Enfin, compromis,
quand même,
non. Parce enfin, disons la version idéale.
Oui, voilà, elle apparaît comme la version idéale, où on a toutes les informations qu'on a envie d'entendre.
C'est compromis par comparaison, mais c'est absurde, puisque...
Il y a un côté fête populaire, là, moi, que j'ai bien aimé, qui fait penser d'ailleurs à un
sans
petit
vulgarité.
Peu... qui anticipe un petit peu certains scherzo beethoveniens un peu flamands et ronflants, comme
Malérien, même, d'ailleurs, dans le début du trio, avec presque un effet de rubato qu'on retrouve dans la quatrième.
On va retrouver Shostakovich, attention, ouais. Stéphane.
Et pourtant, c'est plein de subtilités, hein, bien qu'il y ait le côté fête populaire, c'est plein de subtilités. La guitare de cordes qui accompagne le trio est vraiment une pure merveille, c'est travaillé, mais en même temps, c'est approprié, c'est spontané... Impeccable, c'est exactement
ce qu'il faut. Une fois de plus, hein, là, vraiment, je ne sais pas si le final est à ce niveau-là, on aura un vainqueur triomphal. Hein.
Pour l'instant, c'est un sans faute.
Version numéro 7. Thank you. toujours la version de l'effet avec une grande variété dans les dynamiques, dans les accents. Alors c'est très lent, mais ça passe très bien.
Oui, voilà.
Finalement, comme quoi le tempo n'est pas vraiment
un problème. Pas si discriminant que ça. Au début, on est un peu surpris, surtout après les versions qu'on a entendues auparavant. Mais oui, c'est aussi un peu la caricature, je trouve, du Haydn, bonhomme, le bon papa Haydn, sympathique, un peu populaire, mais en même temps un peu perruqué. On l'entend dans le trio, hein, qui est extrêmement travaillé. Avec là aussi des très belles choses. On retrouve un peu le côté guitare dont on parlait tout à l'heure. Il y a un travail sur les corps aussi qui, pour donner cette couleur un peu pseudo-rustique, mais rustique à la Marie-Antoinette, hein, c'est-à-dire très reconstituée. C'est très sympathique.
Non, puis il y a en même temps quelque chose qui est assez frappant dans le mouvement au début. C'est cette espèce de gestion entre les crescendo et décrescendo. Il y a un mouvement de balancier qui est très agréable, qui se fait de manière très naturelle. Et après, dans le trio, on se dit, est-ce qu'il va aller vers une sorte de caricature ? Et en fait, pas du tout. Il fait quelque chose d'extrêmement fin, de tout à fait chambriste. Qui n'a absolument rien à voir. Donc là, c'est vraiment très intelligemment pensé.
Mais elle est belle, la dentelle.
Tout à fait, c'est de la Marie-Antoinette.
Alors, on avait décidé d'éliminer les versions 8 et 9, donc on passe directement à la 10e. La version numéro 10, j'ai envie de dire que là, on trouve un petit peu peut-être les défauts qu'on avait déjà dit un peu accentués, c'est-à-dire que ça manque d'arête, de choses saillantes dans le menuet.
Oui, puis ça manque même carrément de caractère, quoi, je crois. C'est difficile de parler de cette version-là, parce que c'est la version qui passe un peu toute seule, hein. C'est la version au minéral, sympathique.
Neutre, relativement neutre.
Oui. Mais quand même plaisante à écouter. Il n'y a pas de contresens, on ne s'ennuie pas vraiment. On a toujours l'oreille un petit peu attirée par un petit détail, par quelque chose. Ça avance extrêmement bien.
D'ailleurs, généralement, dans nos écoutes, on en a plus de versions comme ça. Un peu neutres, sur lesquelles on ne sait pas trop quoi dire, il faut bien le reconnaître.
Non, c'est une version, une belle version neutre, voilà, on va dire. De première écoute.
Bon, j'ai l'impression que vous avez envie de passer directement au final.
Absolument.
Hein. Alors allons-y. Donc on va écouter la première version du final de la symphonie numéro 104. Inventive. Éric Taver, vous en avez pensé quoi ?
Ben, il est toujours très cohérent avec ce qu'il a fait jusqu'à présent. Hein. Alors on trouve un peu la faiblesse des premiers violons, enfin des violons en général qu'on avait déjà remarqué dans le 1. C'est vraiment le point faible, je trouve, de cette version, parce que sinon, moi je reste toujours aussi emballé par cette extrême rigueur rythmique, par ces couleurs crues qui se superposent et qui se juxtaposent les unes aux autres. Et puis surtout ce côté mécanique implacable. Quoi. On a vraiment l'impression d'une horloge et quelque chose qui va nous emmener dans des complications extrêmes, mais tout en restant extrêmement rigoureux. Et puis surtout avec une logique implacable.
C'est la version la plus proche de l'esthétique classique, en fait, peut-être d'une certaine manière.
Oui, sûrement, oui.
Oui, tout à fait. Bah, ce genre de version est parfait lorsqu'il s'agit d'avoir un tempo très explosif et puis en même temps d'avoir des rythmes qui reviennent sans cesse de façon complètement obsessionnelle. Il y a un côté buté qui est parfaitement bien rendu, qui est très serré, très, très bien donné, très bien contenu. C'est un peu le côté Fireworks qu'on trouve chez Handel. C'est vraiment ce genre de musique qui correspond tout à fait à ça. Pour moi, on est vraiment dans l'univers baroque, là. Pas du tout dans l'univers classique. Mais bon, c'est très bien fait.
Je viens de dire le contraire, mais bon, c'est très plaisant. Peut-être qu'on ne peut pas dire la même chose.
Mais on doit, à mon avis, dire la même chose, mais avec des mots différents.
On n'est pas dans l'univers romantique, mais on est tout à fait dans l'univers classique. C'est-à-dire mesuré, calculé, rigoureux.
Oui, enfin, non.
Non subjectif.
Oui, enfin, non. Je pense qu'on est... Non, pour moi, on est davantage dans l'univers baroque. Au niveau des couleurs...
L'univers baroque, c'est le changement, c'est la surprise. Là, on n'est vraiment pas dans ça.
Oui, mais ça peut être extrêmement rigoureux. Hein. Il y a des pièces de Handel qui sont extrêmement rigoureuses. Donc, je vois pas... Non, je vois... Pour moi, c'est la notion de couleur qui prime avant tout.
Mais moi, je crois que je parle au sens large. Et vous, Stéphane, vous parlez au sens purement musical.
Le résultat est le même.
Voilà. Bon. On a tout dit. On va passer donc, puisque je vous rappelle qu'on a éliminé la deuxième version déjà tout à l'heure, à la troisième.
C'est très beau, c'est très plaisant. On est tous d'accord pour dire que la virtuosité de cet orchestre sur instrument dit d'époque est absolument remarquable. Enfin, on n'a pas toujours entendu ça, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce type d'instrument et ce type de jeu. Moi, je trouve que ça reste très extérieur. Bon, les sonorités de cornemuse sont très bien faites, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu creux dans la sonorité comme dans l'expression. Il y a quelque chose... il manque
une approche peut-être un petit peu superficielle.
Il manque un peu de chair.
Un peu trop technique.
Un peu d'humanité, un peu de vie.
Il manque la fantaisie de la première version. Il manque ce côté piquant qui fait que on dresse davantage l'oreille.
Mais c'est quand même époustouflant d'un point de vue
réalisation. Là, on est sidéré par la qualité de
la mise en place,
la virtuosité.
C'est quand même...
C'est le Georg Scholti des instruments d'époque.
Oui, c'est ça. on passe à la version numéro 4, pardon. Très belle performance instrumentale, disons. Stéphane Friedrich, vous avez aimé ?
Oui, mais cette fois-ci, elle ne tire pas vers l'univers baroque, elle tire davantage vers Beethoven. Il y a des couleurs qu'on pourrait rapprocher peut-être de l'héroïque.
Bah là, on n'a pas
déjà, c'est pas
on a des instruments modernes. Donc,
oui,
mais... On est dans un univers sonore complètement différent.
Oui, mais c'est un univers sonore qui n'a pas oublié quand même la base, justement la base classique. On joue vraiment entre ces deux univers. C'est terriblement intelligent, avec pas mal d'humour, notamment au niveau des couleurs.
Beaucoup de contrastes.
Beaucoup de contrastes. C'est d'une efficacité terrible. Et surtout, on a vraiment envie d'en savoir davantage et de voir un petit peu comment il va développer tout ce final. Qui part dans tous les sens.
On n'entendra pas tout de suite, mais
hélas.
Je suis assez d'accord avec tout ça, mais je trouve quand même qu'il y a des brusqueries, que ça reste un peu extérieur, que finalement, moi ce que j'aimais bien dans la première version, qui était ce côté mécanique implacable qui se met en place, là on l'a pas, on reste un peu dans l'instant tout de même.
On a un côté plus carré peut-être.
Comment ça, dans la première version ?
Non, dans celle-ci, c'est-à-dire
celle-ci, non, justement.
Plus verticale, je voulais dire.
Oui, peut-être un peu rigide même. Non, c'est plutôt des brusqueries, moi, que j'entends. On a l'impression qu'ils rassemblent des fois l'orchestre par moment, comme ça, et puis ensuite qu'ils le relâchent.
Oui, ça donne de la dynamique.
Oui, oui.
Il y a un côté plus éparpillé.
L'architecture. C'est sûr. C'est quand même très, très intéressant. La version numéro 5.
Thank you.
Encore une version à laquelle le final réussit particulièrement, je trouve. C'est léger, fin, avec un orchestre d'une qualité vraiment exceptionnelle, des cordes absolument sublimes. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, c'est pas très léché, c'est, l'orchestre déploie parfaitement. Bon, ça va pas très très vite, mais quand même, il y a des sonorités
magnifiques.
Ça prend
le temps de bien chanter.
Voilà, mais c'est un peu classique, ou classicisant comme version. On n'a pas du tout le côté pittoresque qu'il pouvait y avoir dans la 4, par exemple, mais aussi dans les deux autres qu'on a entendus jusqu'à présent.
C'est le contraste absolu, une fois de plus, hein, on l'a déjà
c'est
dit.
C'est très civilisé.
À chaque fois, mais c'est vraiment l'anti-version numéro 4, par exemple.
Il y a une grande douceur, il y a un côté altier en même temps, et puis dans le trio, il s'amuse. C'est vraiment la grande classe. Enfin,
c'est polissé quand même un petit peu, mais bon.
Oui. Alors peut-être qu'une fois de plus, la version numéro 6 va nous convaincre encore plus. Écoutons-la. Une fois de plus, on a le caractère, et j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu déçu, Eric.
Oui, je pense que ça
se dit.
Voilà, dans les autres mouvements, cette version numéro 6 se détachait assez nettement. Là, je pense qu'il est plutôt dans le haut de la moyenne, mais il reste dans la moyenne. Je ne suis pas persuadé que ce soit nettement préférable, en tout cas pour moi, aux versions qu'on a entendues juste auparavant. Bon, il y a toujours la caractérisation absolument incroyable. Le début en cornemuse est vraiment magnifique, sans du tout chausser les gros sabots en plus. Il y a une idée par double barre de mesure, mais peut-être que ça tourne pas assez, je sais pas. Surtout peut-être après la numéro 5 qu'on a entendue, qui était très justement, qui se déployait très facilement. Là, on a l'impression que c'est un tout petit peu forcé, que.
Mais on retrouve pas exactement l'élan qu'on avait dans le premier mouvement, qui est quand même un peu comparable une fois que le mouvement est lancé.
Peut-être parce que d'une manière un peu étrange, il joue un côté chambriste. Alors, est-ce que aussi la prise de son qui est très proche des instruments, alors que l'orchestre n'a pas l'air d'être de grande pléthorique, peut-être justement que ça donne cette impression peut-être d'enfermement, mais il y a quand même des moments qui sont sublimes, quand il s'amuse par exemple avec les cordes graves, quand il les câline, etc. Et puis qu'il reprend ce côté complètement lumineux.
Il faudra écouter une fois de plus le mouvement en entier. Parce que
mais c'est vrai que c'est moins génialement inventif que dans les autres mouvements. On a moins l'évidence d'une version qui serait au-dessus du panier.
C'est sûr. Donc maintenant, on va écouter la version numéro 7. Un petit peu déçu, moi, à l'écoute de ce mouvement. Oui. J'ai l'impression qu'il ne va pas au bout de ses idées par rapport à ce qu'on a dit déjà précédemment. C'est un peu gentil, quand même. Hein.
Oui, là, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé, quoi, je dirais, plutôt. Enfin, ils ne sont pas posé beaucoup de questions.
Ça file tout droit, voilà. Et puis voilà, quoi,
exactement.
C'est tout.
Oui. Autant on avait le sentiment qu'ils avaient vraiment envie de prendre à bras-le-corps les trois premiers mouvements précédents.
Ouais. Dont ils forçaient un peu le
autant
caractère,
autant là, ils
parfois,
s'ennuient un petit peu, même, quoi.
Oui. Et nous aussi, par la même occasion.
Oui, puis en même temps, des petits côtés cassants dans les ruptures rythmiques. C'est un petit peu dommage. Ça manque de fluidité, puis aussi certainement d'idées.
Bon. Alors, on va filer à la version numéro 10. Version numéro 10, là j'ai l'impression que les interprètes se sont vraiment réveillés, c'est magnifique.
Ils ont été réveillés depuis
on
le
a
début.
On était un petit peu...
Oui,
on a été presque péjoratif avec cette version, j'ai l'impression. Mais elle est vivante,
Ouais, moi, joue, quoi, moi je l'aime bien depuis le début, voilà, exactement. Oui. Ce que je dis, c'est une version à taille humaine un peu aussi. Il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de volonté de faire d'avoir un discours bien particulier.
C'est pas du cinéma non plus, hein, comme on
pas
l'a vu.
Pas du tout. C'est la version à hauteur d'homme, pleine d'élan, de joie de vivre. Et puis on a l'impression que les musiciens d'orchestre ont eux aussi envie de jouer. Quoi.
C'est pas là, c'est saillant dans le final. Hein,
c'est ça, pas ça seulement un chef qui leur dit ce qu'il faut faire. Là, tout le monde a envie de s'amuser, de prendre du plaisir avec cette belle musique.
Ouais, c'est surtout une grosse machine quand même, hein, parce qu'il faut avoir une telle puissance et une telle souplesse.
C'est très extraordinaire.
Faut vraiment final, avoir un sacré. C'est pour ça que cette version d'un bout à l'autre, en fait, nous montre une sécurité absolue au niveau de sa lecture, et que ça pourrait très bien être une bonne version de première écoute.
On va voir ça, Stéphane.
Très
voir.
Grande propreté.
Nous avons donc délibéré, arrivé à un classement, comme nous faisons à chaque fois. Ça fait beaucoup rire Stéphane Friedrich, d'ailleurs. Donc la version qui arrive en dernière position, donc en dixième position, puisqu'on en a écouté 10, c'est la version numéro 8. Alors je découvre en même temps que vous, hein, nous tous nous découvrons les versions, puisqu'on a tous écouté à l'aveugle. C'est la version, bon, vous pouvez s'en douter un petit peu, mais c'est Célibidache, avec Munich pour Amy. Il a fait deux versions, Célibidache ?
Oui.
Stuttgart,
là, oui, oui.
Et alors pourquoi vous avez retenu celle-ci, Stéphane?
Parce que d'abord, elle était la mieux enregistrée, certainement celle où il avait été...
Le plus loin dans son délire.
Le plus loin dans son... Oui, dans son délire, ou disons dans sa conception très particulière, phénoménologique.
Bon, disons que ça intéressera peut-être certains des auditeurs, mais on ne peut vraiment pas la conseiller en première écoute. Hein,
ah non, certainement pas.
Ensuite, arrivée la version qu'on avait qualifiée de proto-Arnoncourt, qui est un de ses élèves. Thomas Fay, en français. Eric, vous savez...
Fay, je pense,
voilà.
Plutôt.
Thomas.
Fay.
Thomas Fay. Une version enregistrée pour Hansler. C'était le début d'une intégrale Haydn qui était programmée, en fait, qui
a tourné court.
Qui tourne court, oui. Il y a encore quelques volumes qui sortent, mais beaucoup moins qu'au début. Enregistré en 1999 avec son propre orchestre. Ensuite, nous avons la version numéro 9. Herbert von Karajan. Qu'Eric avait reconnu.
Bravo.
Alors, Karajan a enregistré plusieurs fois cette œuvre, hein, 4 fois.
Il l'a enregistré à 4 reprises.
Donc là, il s'agit d'une version avec le Philharmonique de Berlin, parce qu'il y en a d'autres, de 78. Non, 82, pardon.
Ouais, la version Gold, ça.
Oui, la version Gold, celle qui est généralement la plus connue.
Il y a une version pour Amy également.
Il y a une version pour Amy, tout à fait. Il y a une version d'Eckart avec le Philharmonique de Vienne. Et une autre version, toujours avec Vienne, 20 ans plus tard, la première étant en 59, la deuxième en 79, mais un live enregistré chez Andante, paru chez Andante.
D'accord.
D'un concert, malheureusement, la prise de son n'est pas très bonne.
D'accord, donc là, on vient de parler des versions qui nous ont le plus déçus, on peut le dire, hein, puisqu'on les a éliminées avant le menuet. Donc maintenant, on va passer aux versions de la finale. À nouveau Karajan. La version numéro 10, qui peut nous surprendre parce qu'on avait cru reconnaître Karajan à la version numéro 5, moi je veux dire.
Et donc c'est la version de...
Alors pardon, non, c'est la version Vienne,
avec
enregistrée
DK.
Pour Decca dans les années 60, dans la fameuse grande série enregistrée entre 59 et 64, si je me
trompe. Qui déçoit rarement.
Qui à chaque fois nous plaît. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à chaque fois... que Karajan a enregistré plusieurs œuvres. Généralement, la version qui nous plaît le plus parmi ces multiples versions, c'est la version Decca. Ça avait été le cas il y a longtemps à Classica pour la troisième de Brahms. Ça avait été le cas aussi pour la 40e de Mozart. Donc c'est vraiment une période...
Mais pas pour la 7e de Beethoven.
C'est juste, mais elle arrivait quand même dans les premières parmi les 10 que nous avons écoutées il n'y a pas longtemps. Très belle version. Ensuite vient la version numéro 7... enregistré par Dorati.
Avec le Philharmonica Ungarica.
À l'époque où il a enregistré l'intégrale des opéras. Et des symphonies.
Et des symphonies, bien sûr.
Voilà. Des symphonies.
C'est finalement, bon, c'est vrai que par rapport à d'autres versions plus récentes, elle a un petit peu perdu de son aura, mais enfin, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement précis et très, très musical, surtout. Et avoir réussi une telle somme. Parce que je crois que c'était la première intégrale qui a été effectuée des symphonies de Haydn, c'est quand même assez remarquable.
Mais c'est très vivant surtout.
D'ailleurs, il y en a que deux des intégrales, si je me trompe.
Oui.
La sienne et...
Il y a Fischer. Il y a Adam Fischer.
Oui. Ensuite, nous avons la version numéro 3. Donc, parmi les versions sur instruments anciens, celle-ci a été enregistrée par Christopher Hogwood.
L'Académie
of Ancient Music. Ah oui, je suis un peu étonné.
Oui, on aurait pu croire que c'était la première aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Ça,
oui.
Bah oui, mais ça, c'est les joies de l'écoute en aveugle.
Bien sûr, oui.
Donc lui, il était aussi parti pour faire une intégrale, d'ailleurs, et que
Descartes a arrêté en cours de route. Enfin, l'Oiseau à l'époque. Mais... Absolument.
Ça date de quelle époque, ça, Stéphane?
C'est année la version Hogwood date de 83, 83, 85. Oui, entre 83 et 85.
95, hein,
si oui, mais ça, il l'avait enregistré avant. Hein,
il l'avait enregistré absolument part, hein. Avant. Et d'ailleurs,
c'est quand même délirant, c'est la qualité de cet orchestre.
Oui, ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est que cette version-là ne soit pas ressortie dans les coffrets, puisqu'il y a eu 7 ou 8 coffrets qui sont sortis, au lieu des 15 qui étaient prévus.
Et oui, et il y avait réellement la réalité puisque l'intégrale est pas complète, donc à moins de continuer à l'enregistrer, malheureusement.
Mais elle a été rééditée dans une petite collection économique de Basolien.
Tout à fait. Il faut la chercher, on la trouve.
C'est d'ailleurs l'objet de ce disque.
Alors ensuite, on arrive donc à la quatrième meilleure version, qui est la première, et c'est donc la petite bande dirigée par Kuishken chez DHM. Une version pas très connue en fait. Hein. Enregistrée, pardon, c'est le disque qui tombe. Aussi dans les années 90, c'est ça Stéphane ?
Oui, elle a été enregistrée en 1995, plus exactement.
Donc, elle n'a pas été très connue en France, mais en Angleterre, par exemple, elle est extrêmement valorisée. Et puis, il y a eu aussi une tentative d'intégrale de Kuishken.
Oui, oui, il en a enregistré pour Virgin, il a enregistré les Parisiennes, si je ne me trompe pas. Il en a enregistré beaucoup, oui. C'est magnifique. Donc, on arrive dans le trio de tête. Mmh. Donc, la version numéro 5, moi, je dois dire, j'ai pris pour étant qu'Ariane Vienne. Donc, vous voyez que bon, c'est quand même très dur, hein, l'écoute en aveugle. C'est Colin Davis avec l'orchestre du Concertgebouw. Une version pour Philips qui a été également très souvent rééditée. Moi, je croyais être une fausse version de référence, je dois dire. Elle est souvent dans les vieux guides. On l'a souvent citée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans les langues viennes. Et on voit que ça tient vraiment parfaitement la route, comme souvent avec Colin Davis. Oui.
C'est un chef qui est très, très inégal, et qu'on prend toujours pour quelqu'un de relativement mou, et qui manque un peu de carrure rythmique. Et on s'aperçoit que parfois, il réussit des choses absolument superbes, tout simplement parce qu'il creuse vraiment l'orchestre, il s'adresse, il travaille avec des orchestres vraiment prestigieux, comme le Concertgebouw, qui d'ailleurs est probablement l'orchestre qui a le plus enregistré cette symphonie dans la discographie. Ce qui donne des choses vraiment très intéressantes. Cette version a été gravée en 77.
Et on avait signalé qu'elle était remarquablement enregistrée par ailleurs.
Oui.
Une grande époque Philips. La dernière édition, on peut la signaler, c'était dans Philips 50 ans, on doit toujours pouvoir la trouver assez facilement. C'est un coffret de CD avec les londoniennes. Deuxième meilleure version, donc la quatrième, dans l'ordre de notre écoute, c'est Arnoncourt.
Et on retrouve toujours le Concertgebouw d'Amsterdam.
Oui. Alors avec une esthétique vraiment totalement différente.
Hein. Oui.
Avec un équilibre absolument différent au niveau simplement du choix des pupitres. Là, nous sommes quelques années plus tard, en 87-88, donc 10 ans plus tard. Et Arnoncourt réussit la synthèse de ce qu'il a fait depuis l'époque du Concertus Musicus de Vienne, et donc avec tous les grands orchestres qu'il dirige, et ça donne justement ce résultat complètement
atypique. Entre-temps, on peut dire qu'il a enregistré une quasi-intégrale des symphonies de Mozart avec le même orchestre. C'est ses premières expériences sur instruments modernes. C'était aussi avec le Concertgebouw. Et à la suite de ça, juste dans la foulée, il a enregistré les londoniennes.
Il y avait l'inachevé avec le symphonique de Vienne,
tout à fait.
Qui était rigolo.
Ah, et qui date d'avant, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui.
On peut trouver aussi. Alors, le vainqueur, là, c'est vraiment la surprise, parce que du coup, on a éliminé un petit peu toutes les versions qu'on connaît.
Ouais. Je suis très impatient de savoir qui c'est.
Nous découvrons, Eric, regardez.
Maqueras. J'y ai songé.
Oui, c'est pas la première fois que Maqueras nous surprend vraiment. Une version enregistrée pour Telarc, avec l'orchestre de Saint-Luc, un orchestre américain. Stéphane, vous pouvez nous en dire un petit peu ? C'est une surprise.
Ah bah ça, c'est une complète surprise. Ça veut dire que ce chef qui est quand même qui a bâti une grande partie de sa carrière sur la musique tchèque, sur le répertoire slave, qui est un type qui travaille ses partitions avec un sens du détail inouï, est aussi quelqu'un qui a le sens du style classique et le sens baroque. Et bon, et c'est vrai qu'il est aidé aussi là avec un orchestre de super pro américain et en même temps une prise de son Telarc qui est très très hellénistique. Et ça donne ce moment.
Oui, des fois, t'es là parfois.
Il est fort probable. Mais... Oui, il est fort probable qu'ils aient joué justement parce qu'ils ont enregistré plusieurs volumes Haydn.
Souvenez-vous récemment de la petite musique de nuit, nous avons été également surpris dans Classica par la prestation de Macaras, qui était absolument magnifique. Et on était simplement déçus par l'orchestre. C'était Scottish, je crois, aussi pour Tellac. Oui. Alors que là, pas du tout, c'est vraiment extraordinaire.
Moi, St. Hugh's, c'est l'orchestre américain qui travaille le plus avec tous les grands chefs dits baroqueux. Hein. Ils ont eu Pinocchio, si ma mémoire est bonne.
Ils ont eu Hogwood.
Ils ont eu Hogwood, surtout.
C'est aussi un orchestre qui fait beaucoup de musique contemporaine. Alors, je ne sais pas si on peut y trouver cette souplesse.
C'est un peu le même système. À partir du moment où on fait appel à ce type d'orchestre, orchestre de chambre, ou orchestre Mozart plus exactement, et que ces orchestres-là deviennent des spécialistes, par exemple, de la musique néoclassique, notamment d'œuvres de Martinou. Ce sont des orchestres qui sont très, très habitués à travailler, justement, ce type de répertoire.
Oui, et puis par ailleurs, on n'a pas d'autres versions d'orchestres de chambre qui ont beaucoup enregistré, comme l'English Chamber ou même Chamber Orchestra of Europe aujourd'hui. Oui. Ils n'ont pas enregistré la 104.
Oui, absolument.
Voilà, donc on peut se contenter de cette version, et puis des autres, évidemment.
Comment ça, s'en contenter ? Savourer cette version ?
Non, on n'a aucune réserve, pratiquement. On était un petit peu déçus par le final, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, on vous conseille d'essayer de la trouver, ça ne va pas être facile, parce que, paru en 92 chez Tellarc, peut-être sur Internet. Voilà, la version Arnoncourt, en tout cas, doit être disponible, de même que celle de Colin Davis, dans Les Gagnants.
Cobuzz.com. L'écoute comparée. Classica. Animé par Bertrand d'Hermoncourt.